Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, ou encore de leurs plus beaux souvenirs ensemble. Et l'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez, au travers de ces expériences partagées, vraiment apprendre de nos invités toutes les astuces qui font le secret de la longévité. Si le podcast vous plaît d'ailleurs, pensez à vous abonner sur iTunes pour ne rater aucun épisode. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot doux à votre tour, une note 5 étoiles même sur l'application iTunes. C'est ce qui nous aide le plus, au fond, à diffuser tout cet amour autour de nous. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous pourrez retrouver leurs contacts et notre univers en allant simplement sur le site de Gemio, www.gemio.com, G-E-2-M-Y-O. Alors aujourd'hui, Chalalove prend une forme toute particulière puisque nous ne recevons pas un couple cette fois, mais une coach en relation amoureuse, Swazik, fondatrice des carnets Save Your Love Date. Vous pourrez retrouver Swazik sur son site web donc saveyourlovedate.fr ainsi que sur leur compte Instagram qui prend le même nom. Avec Swazik, on a abordé toutes les questions qu'on n'ose jamais poser, mais qui nous tourmentent parfois en tant que couple. Le coup de foudre existe-t-il vraiment? Que faire quand on sent qu'on a rencontré la bonne personne, mais que l'intensité n'est pas réciproque? Comment faire face à la peur de l'engagement? Comment créer des moments de qualité en couple, surtout avec un travail prenant ou l'arrivée d'un enfant? Comment gérer la routine de son couple après plusieurs années, la renouveler, l'emmener plus loin? Mille et une questions auxquelles Swazik a eu la grande gentillesse de répondre et qui, j'espère, vous aideront à prendre les petits aléas de la vie de couple avec un peu plus de recul et de philosophie. Je suis Pauline Aignot et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemio. Bonjour Swazik, bienvenue sur Chalalove.
Bonjour Pauline, merci de me recevoir.
Eh bien écoute, ça me fait très plaisir. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Swazik, te présenter et m'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui?
Alors je m'appelle Swazik Castelnérac, j'ai 40 ans. Je suis mariée depuis 14 ans et nous avons 4 enfants.
Félicitations.
Voilà, merci. J'ai fait des études de droit. Je me suis spécialisée en droit de la santé. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 12 ans en tant que responsable juridique en clinique. Et en fait, j'ai tout laissé tomber il y a un peu plus d'un an maintenant pour me lancer dans l'aventure Save Your Love Date. En fait, j'ai créé un outil de communication pour les couples. Donc c'était pas ma formation à la base, enfin j'avais fait de la psychologie mais voilà, je pas spécialement orientée vers les couples. Et en fait c'est notre vie de couple qui a fait que et nos amis en fait qui nous ont éclairés sur le sujet et qui me disaient tout le temps il faut que tu fasses quelque chose pour les couples parce qu'ils sentaient vraiment que c'était un sujet qui me passionnait. Donc moi j'ai mis un peu de temps, je voyais pas trop dans quel sens aller et puis je me disais que des livres sur les couples il y en avait déjà des centaines en bibliothèque, donc je voyais pas en quoi j'allais apporter quelque chose en plus. Et en fait un jour j'ai eu cette idée de vraiment faire un outil de communication où c'est le couple qui était acteur. Voilà, une fois que l'idée m'est venue, ça a déroulé, rien ne m'a plus arrêté. Et voilà, j'ai foncé, je me suis dit, il faut faire ça.
Génial. Donc, voilà. Bah écoute, on va en tout cas montrer le livre après sur tous nos réseaux. Mais déjà, félicitations pour tout ce travail accompli parce
Merci.
Que franchement, c'est une belle œuvre. Et moi, je suis ravie donc, de t'avoir parce que pour une fois, donc messieurs, dames, le Chalalove est un petit peu différent puisqu'on va parler de couple, mais avec une experte, si je puis dire, pour nous donner un petit peu ses conseils. Et notamment, en fait, j'avais envoyé sur les réseaux un certain nombre de questions à nos clients, à nos auditeurs, pour leur demander quelles sont les thématiques qui les intéressent. Et alors, il y en a un certain nombre, je te propose qu'on en parle et que tu me dises un petit peu quel est ton avis dessus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Une interrogation importante, c'est sur la rencontre.
Oui.
Évidemment, un moment absolument crucial et notamment pas mal de personnes qui nous demandaient, donc avant d'être en couple, est-ce que tu aurais des conseils, mais on va dire des principes à appliquer, en tout cas des grandes idées qu'on pourrait appliquer pour rencontrer vraiment quelqu'un qui va être non pas son âme sœur, mais quand même ça, voilà, son plus un, sa personne avec laquelle on va durer le plus longtemps, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous disaient « Oh là là, moi, je ne sais pas où aller, je vais dans des bars, je vais dans des boîtes, etc. Mais je sens que ce n'est pas vraiment le bon endroit. Je pense que c'est un bon instinct. » Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner sur la rencontre, sur peut-être des erreurs à ne pas commettre, justement, pour être sûr de trouver la bonne personne au bon endroit ?
Alors, je dirais, des erreurs à ne pas commettre, en fait, c'est d'être pressé et de se mettre la pression. Et de se dire, maintenant, vu mon âge, j'en ai marre d'être seule, il faut absolument que je rencontre quelqu'un et prendre un peu le premier venu et se persuader que c'est le bon. Je peux en témoigner parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'étais allée jusqu'aux fiançailles, quasiment jusqu'au mariage. Et parce que, en fait, j'avais cette... je pense un peu cette pression familiale et puis cette envie d'être en couple et qui fait qu'en fait ça, on est plus libre de notre décision. Donc en fait je pense qu'il faut être assez libre, enfin il faut être complètement libre face à cette idée d'être en couple et d'essayer de se dire je vis ma vie, je me construis une vie seule, je m'épanouis seule, la solitude, voilà, je l'apprivoise quelque part, enfin, puis là, quand on parle de solitude, c'est seulement solitude en couple, parce qu'après, on peut avoir ses relations professionnelles, ses amis, sa famille. Mais je l'apprivoise et je me fais vraiment, je me construis moi, et en fait, avoir confiance et se dire que quand je serai prête, la rencontre, elle viendra, elle se fera, et d'autant plus durablement que justement, on se sera, je pense... construit soi-même et qu'on sera prêt à rentrer dans une relation.
Non mais je comprends complètement. Et donc en fait ce que tu dis c'est que ça vient presque plus de son état intérieur de faire une belle rencontre que de trouver la bonne personne au bon endroit, parce qu'il y a un peu le mythe du coup de foudre, etc. Est-ce que ça existe vraiment justement ça, le coup de foudre, ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel pour pouvoir avoir un coup de foudre il faut aussi s'autoriser d'avoir un coup de foudre, quel est ton avis là-dessus ?
Moi je pense que le coup de foudre existe en fonction des histoires, effectivement il y a cet amour au premier regard en se disant c'est une évidence, c'est lui quoi, enfin, ou c'est
génial.
Elle, ça clairement, mais après je pense que on le sait, si on sait s'écouter, si on se connaît, on le sait à l'intérieur de soi si c'est la bonne personne ou pas, si c'est avec lui qu'on se projette, qu'on va faire sa vie. Après, le coup de foudre ne veut pas dire que ce sera le bon, ça peut être quelque chose de passager, de passionnel. Faut faire attention aussi. Mais je pense que vraiment, l'idée, c'est de se dire je me connais et je m'écoute. Et je ne me mets pas de pression de ce que je peux avoir, enfin de la pression que je pourrais ressentir de mon entourage. Je n'écoute pas ça, je ne m'écoute que moi. Et puis, il y a l'idée dans la rencontre de prendre son temps aussi, je pense, de ne pas brûler les étapes.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est ce qui se fait quand même beaucoup maintenant. Et c'est dommage de laisser en fait, le charme agir, le premier rendez-vous, le deuxième, le premier baiser. Enfin, ça peut paraître un peu neuneux quelque part comme ça, mais en fait quand on le vit ça l'est pas du tout et je pense qu'il faut revenir à ça quoi, aux bases. Non mais c'est vrai,
courtiser,
courtiser exactement, puis se laisser désirer, faire monter le c'est ce qui restera après dans l'histoire, hein. C'est le début de l'histoire de couple, donc c'est quand même une base qu'on pose et je pense que c'est important d'en prendre soin quoi, de vraiment
Et que faire, là aussi une autre question des auditeurs, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a, alors non pas peut-être un coup de foudre, mais en tout cas qu'on a cette intuition, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce n'est pas forcément réciproque. Est-ce que tu penses qu'il faut suivre son instinct et donc essayer de continuer avec cette personne ou pas ?
Ouais, moi je dis oui. une fois encore, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai rien lâché pour mon mari et... parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et parfois, il y en a un qui met un peu plus de temps à se dire, c'est la bonne personne. Parce qu'il peut y avoir aussi une peur de l'engagement qui fait que quand on se dit, oh là, c'est la bonne, ça y est. Enfin, maintenant, il y a plein de choses que je dois mettre derrière moi, une façon de vivre, une façon... je vais devoir partager mon quotidien et puis me dire, c'est la dernière. Donc, c'est un vrai pas à faire. Donc, parfois, il y en a un qui met un peu plus de temps. Donc, sans devenir, lourdingue, agressif, savoir être... je pense que quand on sent que c'est là... Je pense qu'il ne faut pas lâcher et essayer de tout donner, quoi. Vraiment, mais intelligemment, évidemment, avec subtilité. Mais moi, j'aurais tendance à dire...
Et toi, tu serais d'avis de... Alors, tu as évoqué le mot d'engagement, qui est l'un des points que je voulais aborder avec toi, mais il y a des mots qui peuvent être forts, comme un « je t'aime », comme « je suis amoureux de toi », »,« je suis amoureuse de toi ». Ça, pour toi, c'est peut-être difficile d'en faire des généralités, mais quand on sent, par exemple, qu'il y a quelque chose qui se passe, pour toi, c'est des choses qu'il faut sortir rapidement, même si on sent que ce n'est pas forcément tout de suite aussi réciproque de l'autre côté ?
Alors, quand on sent que c'est pas réciproque...
pas du tout réciproque, non.
C'est dangereux. C'est dangereux parce que tout de suite, ça va faire peur.
Ouais.
Et puis, il y a aussi un côté, le fait de le dire trop vite, et c'est que l'autre se dise, ah bah super, c'est acquis. Mm. Ça y est, le travail est fait, c'est bon, elle est pour moi. Mm. Donc voilà, je fais moins d'efforts, en tout cas. Mm. Donc non, je pense que le premier « je t'aime », enfin, pour moi, il doit mettre du temps et il doit sortir vraiment des tripes. Enfin, je pense que si c'est dit trop facilement...
C'est qu'il n'y a pas de sens derrière.
C'est que derrière, voilà, il y a moins de sens en tout cas. Alors que vraiment, un « je t'aime », il part vraiment du ventre, des entrailles et il fait vibrer, quoi. Mmh, donc, je pense qu'il faut vraiment le préserver, ce premier « je t'aime ». Et si vraiment on sent qu'en face, il n'y aura pas la réciproque, bon, bah, faut...
Et si le « je t'aime » de l'autre côté ne vient pas ?
Ouais, c'est ça. Bon,
c'est
bah,
un
là,
peu dur, hein.
Ça
nous est arrivé quand même à plusieurs reprises dans Shalala Love. Alors, ils finissent en général par se le dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sur Shalala Love.
Ouais.
Mais en fait, il n'est pas si peu fréquent, j'ai l'impression que, bah, voilà, il y a un peu quand même cette décorrélation temporelle et que tu es une personne qui le ressente ou qui l'exprime en tout cas plus facilement que
l'autre. Alors que l'autre n'est pas prêt encore, ouais. Bah, je pense qu'il faut, justement, il faut essayer de jauger et de se dire... Moi, je le ressens, mais là, je sens que c'est trop tôt pour lui, bah, essayez de le garder un peu pour que, voilà, il y ait une sorte de connivence et que, voilà, on se retrouve à un moment donné, essayer de se le dire ensemble, c'est quand même, c'est l'idéal.
C'est sûr. Bon, et donc, voilà, on parlait un petit peu d'engagement tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des astuces, des trucs pour communiquer ses besoins, si jamais on a des besoins d'engagement et qu'on sent qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, justement à ce niveau-là, pour ne pas être pressant, mais en même temps faire ressentir que c'est un vrai besoin? Parce que là aussi, je pense à pas mal de personnes qu'on a eues sur le podcast, qui, d'une part, l'un des deux invités sentait qu'il avait besoin d'un engagement, besoin d'exprimer, qu'il y avait une implication forte, qu'il y avait... qu'il y avait vraiment quelque chose de solide qui était en train d'être construit, et l'autre freinait un peu des cas de fer. Et donc, je sentais que ce n'était pas une période facile à gérer pour les deux. Est-ce que tu aurais des conseils à donner là-dessus?
Je dirais, essayer de pas... à la fois de prendre son temps, mais de ne pas en perdre non plus. Parce que de jamais parler de cette question d'engagement ou la reculer...
Oui, c'est ça, on peut avoir tendance à complètement éviter le sujet si on sent que l'autre n'est pas prêt, quoi.
Parce qu'on ne le sent pas et on se dit, si je lui parle de ça, il va partir en courant. Mais en même temps, s'il doit partir en courant, il vaut mieux qu'il parte...
partir en courant.
Ou elle, pardon, oui, c'est vrai que... non, mais absolument. S'il y en a un des deux qui doit partir, vaut mieux que ce soit au bout de quelques mois qu'au bout de quelques années, parce que tout ce temps-là, quelque part, il sera perdu pour notre relation. Donc, quand on se sent mûr pour en parler... même si on a peur en face de la réponse, je pense qu'il faut y aller quand même, parce que tôt ou tard la question elle se posera de toute façon, que ce soit par un mariage, par un pax, par un enfant, par un achat en commun, elle se posera. Et si c'est là que finalement on se rend compte
que
ça va trop loin, là, moi je suis plus, il y aura tout ce temps de... Alors, on peut dire ça fera partie de son histoire, de sa construction, certes, mais c'est du temps qu'on n'aura pas donné quelque part à une autre relation qui sera la bonne. Donc ne pas fuir le sujet, même si on sent que... Mais pas l'aborder tout de suite non plus, évidemment. Hein, faut profiter du départ, des premiers mois, de tous ces instants un peu de légèreté, liberté, évidemment. Mais il ne faut pas non plus reculer devant le sujet.
Le sujet. Et à l'inverse, si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la personne qui a peur de l'engagement, parce que là aussi, on a eu des personnes sur le podcast qui en souffraient, en fait, parce qu'ils sentaient qu'ils aimaient cette personne, qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait, mais qu'à l'inverse, ce n'était pas évident pour eux de se projeter. Il y avait peut-être des problèmes familiaux, enfin d'autres choses. Comment là aussi essayer d'aider ces personnes qui ont envie de s'engager plus, de s'investir, parce qu'ils aiment quand même la personne en face, mais qui ont du mal à passer le cap?
Alors, pour le coup, pour eux, c'est peut-être vraiment essayer de... d'en parler donc dans leur couple déjà, avec leur conjoint, leur conjointe, pour essayer de se projeter dans l'avenir et de voir, en termes, on s'engage, mais on s'engage à quoi?
Oui, concrètement, qu'est-ce que ça signifie?
Voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Et le fait d'en parler... Je pense que déjà, ça enlève un poids et on se dit, on y voit plus clair. Et on se dit, effectivement, là, quand on en parle tous les deux, c'est clair pour moi et j'ai envie d'y aller. Ou alors, se dire ouais bah enfin non on n'est pas synchro finalement c'est c'est peut-être pas la bonne solution. Donc en parler en couple et puis en parler, essayer d'en parler aussi autour de soi. Alors si on est proche de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis qui peuvent parfois avoir un regard assez pertinent sur la relation de couple, voilà, sur un regard extérieur qui peut nous aider à y voir plus clair. Mais c'est sûr, c'est qu'il faut en parler, ne pas avoir peur de...
C'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, le mot communication est un mot qui est particulièrement employé dans le podcast Chalet Love. Hein, tous nos invités, à chaque fois que je leur pose la question, pour vous, c'est quoi le secret de la longévité ? Beaucoup nous disent la communication. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'est la communication donc pour régler les petits soucis du quotidien, etc. On va en parler, mais c'est aussi finalement sur quelle est notre vision du couple, quelles sont nos valeurs, est-ce qu'on veut s'engager de la même manière ? Est-ce que selon toi, c'est quelque chose que les gens font assez ? Alors une fois de plus, c'est très général comme question, c'est difficile à dire, mais moi j'ai été étonnée en fait quand j'ai eu certains invités sur le podcast qui m'ont dit on s'est posé au bout d'assez peu de temps pour se dire qu'est-ce qu'on attendait du couple, qu'est-ce qui comptait pour nous, est-ce que la fidélité c'était important, pas important, des grandes valeurs comme ça, des grands principes, et je trouvais ça super. Moi-même j'avoue qu'en fait je l'ai pas fait spontanément et je me disais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un mari avec lequel je m'entends très très bien et il y a pas de souci, on a les mêmes valeurs, mais c'est peut-être bien en effet de le faire au début. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aussi aux personnes que tu rencontres?
Ça complètement. Et alors, on peut avoir cette chance quand, si on se dit, tiens, on se prépare au mariage, on va se marier. Donc là, on peut, dans le cadre, par exemple, d'un mariage à l'église, avoir une préparation qui fait que ces questions-là, elles nous seront posées. Après, si on...
Oui, finalement, c'est vrai, je suis désolée de t'interrompre. Quand on était au 19e siècle, il y a quelques dizaines, centaines d'années, c'était quelque chose qui était un processus nécessaire dans le cadre du mariage. Mais maintenant que les choses ont un petit peu changé.
Voilà, maintenant, si on se marie civilement, clairement, à la mairie, ils ne nous demandent rien. Ils ne vont pas, entre guillemets, vérifier qu'on est fait l'un pour l'autre. Voilà, on y va, c'est assez formel et on n'aura pas ce côté... on vous impose, mais on vous propose au moins un parcours de réflexion sur sur votre engagement. Et puis si on veut aucun engagement officiel, mais juste vivre ensemble, si on s'en donne pas, si soit ça vient pas de soi, rien nous sera proposé. Et c'est pour ça, notamment que j'avais créé les deuxièmes carnets Save Your Love Date, c'est 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Et pour le coup, c'est toutes les questions qui moi me paraissent essentielles à se poser avant de s'engager. Et pour s'engager librement. Donc parce que on va en discuter, en couple, on va le faire ou pas le faire, mais si on le fait, il y a des questions qui vont venir naturellement, mais elles viendront toujours de nous. Et là, en fait, l'idée, c'était d'apporter vraiment des questions de l'extérieur pour aller plus loin dans sa réflexion.
Tu aurais des exemples de ces questions ?
Ça va être... Il y a 12 thèmes, donc ça reprend vraiment les fondamentaux de la vie de couple. Donc on va parler du quotidien, de sa vie quotidienne, comment on voit les choses. On va parler des satellites, donc tout ce qui gravite autour du couple, donc la famille, la belle famille. Tous ces sujets qui sont quand même importants. Mais la belle famille à aborder avant que ce soit pas un sujet de conflit.
C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on doit voir ma belle famille une fois par mois ? C'est quoi concrètement
Par exemple, dans le ressenti. Est-ce que je définis en trois mots la relation que j'ai avec ma belle-mère, avec mon beau-père, la façon dont ils me perçoivent, la façon dont ils perçoivent notre couple, en fait, pour essayer de parler de ça dans le couple. C'est plus la façon dont on ressent les choses. Est-ce que tu considères qu'on passe assez de temps chez ta famille, par exemple ? Il y a des choses qui ça reste concret, mais il y a à la fois du concret, à la fois du ressenti, pour essayer d'exprimer les choses d'exprimer de façon assez apaisée, sans que ce soit dans le conflit. Donc ça c'est un exemple de thème. Il y avait parlé d'argent, parler de sa sexualité. Ça parfois on se dit au début tout roule, mais non, c'est très important d'en parler. Je trouve dès le départ savoir comment on vit les choses, comment on voit les choses. Les projets d'avenir, ce qu'on veut pour l'avenir, donc l'avenir professionnel, l'avenir des projets qu'on a pour soi et les projets qu'on a en couple. Essayer de faire le tour un peu de ce que sera une vie de couple, partagée à deux.
Dans la pratique, au-delà de évidemment commander Save Your Love Date, est-ce que tu as peut-être des bonnes pratiques aussi pour un couple qui n'a pas nécessairement prévu d'en parler ? Comment s'organiser en fait pour discuter de ça ? Est-ce qu'il faut se prévoir une après-midi où on va prendre un verre entre amoureux dans un restaurant ?
100%. Là, c'est vraiment mon... mon leitmotiv, c'est le temps de qualité passé à deux, que ce soit avant de s'engager, parce que là, c'est ce dont on parle, ou dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ce temps de qualité, vraiment. Alors, comme tu dis, se donner rendez-vous, aller boire l'après-midi un café, un dîner le soir, vraiment maintenir toujours ces moments où, et se dire, voilà, samedi soir, on sort, on a rendez-vous tous les deux, et on va parler, j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là. Mmh. Et voilà, pas avoir peur de se donner une...
D'avoir un ordre du jour.
C'est vrai, un peu...
Très professionnel.
C'est le côté entrepreneurial qui ressort, mais voilà, un ordre du jour. Ouais. Et se dire, moi, j'ai ce sujet que j'aimerais aborder avec toi, le dire avant, pour que chacun s'y prépare, en fait.
Oui, qu'on ait des choses à dire aussi, d'y réfléchir en amont.
Exactement.
Préparer la réunion.
Voilà, ouais, c'est ça. Et que l'autre ne se sente pas piégé non plus,
ouais.
En disant...
parce que c'est vrai
qu'on allait parler de ça. Enfin, moi, non, ce soir, je voulais être cool. Voilà, parler des vacances ou je ne sais quoi d'autre, mais pas du tout de ce sujet-là. Ouais. Donc voilà, dire avant, essayer, pourquoi pas mettre quelques questions. Moi, ça, je trouve ça vraiment super comme démarche. Donc, soit ça vient tout seul, soit on regarde un peu sur Internet, on trouve un article, je ne sais pas si on a lu un bouquin et on en sort des questions. Ça se trouve. 5-6 qu'on partage, enfin qu'on donne à l'autre avant, chacun les prépare et se dire, voilà, on a construit notre sujet, le sujet qu'on veut aborder. Et vraiment... et en fait, le fait de le programmer avant et de le faire dans un cadre où on se sera donné rendez-vous et du coup on aura mis les formes sur le. Parce que dans un couple, se donner rendez-vous, il y a toujours le côté séduction.
Oui, bien sûr.
Donc, et de parler de ce sujet qu'on va aborder dans ce cadre-là, ça fait qu'on va l'aborder sereinement. Voilà. Et les choses, elles se diront plus librement, plus facilement. On sera amené à se confier peut-être plus facilement que si on l'aborde rapidement le soir à 18h quand on rentre du travail parce qu'on l'a sur le cœur, parce
qu'on y a géré les enfants à côté, etc.
Mais qu'on va en parler, que c'est là, que ça bouillonne depuis 3 jours et qu'il faut que ça sorte ou le soir, une fois au lit, avant de s'endormir, là, c'est
le pire. Petit conseil, éviter.
Ah bah oui, complètement. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, se dire, moi, j'ai besoin de parler de ça avec lui, mais on s'y prépare et voilà, on le fait bien, quoi. Mais vraiment, l'idée, ouais, de l'ordre du jour, de... Voilà, ça peut paraître pas très romantique comme ça, mais en fait, ça peut le devenir. Ça peut carrément le devenir si on met les formes. Y a pas de...
Complètement, complètement. On a évoqué un autre sujet, c'est toi qui l'as évoqué, c'est justement la difficulté de se créer ces rendez-vous, d'avoir des moments de qualité, c'est le mot que tu as utilisé, ensemble. J'ai l'impression que c'est quelque chose, on en parlait en off un petit peu avant d'enregistrer le podcast, et tu me disais que c'est quelque chose qui revient très souvent en fait, dans les couples que tu connais et que tu côtoies. Ouais. Est-ce que là aussi, tu pourrais nous donner des conseils justement applicables concrètement quand on commence à avoir une vie de famille, des enfants, le travail à gérer? C'est vrai qu'on se sent quand même assez rapidement submergé, on se dit mais quand est-ce qu'en plus je vais pouvoir gérer ma vie de couple? Comment faire pour réussir à concilier tout ça?
Alors, je pense que dans sa tête... il faut être clair et se dire où est-ce que je mets ma priorité. Et si elle est pas dans si on met pas sa priorité dans le couple, il faudra se dire qu'à un moment donné ça va pas rouler. Ok, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le travail, mais à la base, qu'est-ce qui en fait me rend le plus heureux? Qu'est-ce qui m'épanouit? Quelle est ma base? Qu'est-ce qui le matin fait que je me lève et ça donne la pêche? Qu'est-ce qui, quand j'ai une mauvaise journée, va me motiver, me dire tiens, ce soir cool, je le retrouve, voilà, on va débriefer tous les deux et ça me fera du bien en fait. Et voilà, garder ça en tête et se dire en fait ma priorité c'est lui, ma priorité c'est elle. Alors,
c'est un peu bizarre peut-être que je pose cette question, mais même face à des enfants, en fait, c'est la priorité.
Et oui, parce que les enfants, ils viennent d'où? En fait, ils viennent de ce couple qu'on a formé. Donc, de quoi ils vont avoir besoin en priorité, nos enfants? C'est de sentir que leurs parents, ils s'aiment, qu'ils sont solides. Et pour moi, enfin, vraiment, c'est la base sur laquelle ils vont se construire. C'est là où ils vont venir puiser, c'est ce qui va les rassurer. Et ils le comprennent très bien. Et quand on leur dit, on leur a toujours dit, maintenant c'est le temps des parents. Donc qu'ils soient tout petits à 6 mois ou encore maintenant, quand c'est stop, quand il est 19h-20h, qu'on veut plus les entendre, on leur dit maintenant c'est le temps des parents. C'est pour nous, on en a besoin, c'est notre couple, on vous aime, mais on s'aime aussi tous les deux, on a besoin de ça. Et les enfants, mais ils en raffolent parce que c'est hyper rassurant pour eux quand on part en week-end sans eux. Mais enfin, ça leur pose. Il y en a plein qui me disent oh ben non, je peux pas les laisser, ça va pas le faire. Ouais. Je suis leur grand-père, j'ai des amis. Non, pour eux, c'est trop triste. Mais absolument pas. En fait, c'est les parents qui disent ça pour se rassurer. Mais les enfants, voir leurs parents partir en amoureux, Non, mais il n'y a rien de plus rassurant, en fait. C'est pour eux, c'est top. Donc, vraiment, pour moi, ouais, le couple est à mettre, en priorité parce que...
Mais c'est pas évident, donc je pense que c'est important de le dire.
Ouais. Ben oui, mais en fait, ce qui va en découler, ça sera c'est ce qu'on donnera aux enfants, ce qu'on donnera d'autant mieux aux enfants. Si en tant que mari et femme, on est serein, qu'on n'a pas des conflits de couple à gérer, que,
c'est sûr.
Eh ben voilà, on sera d'autant plus disponible pour nos enfants, d'autant plus aimant, d'autant plus... Enfin, aimant, non, je ne veux pas dire, parce qu'on peut tout à fait...
Bien sûr, être aimant.
Mais en tout cas, disponible pour eux, on n'aura pas des problèmes de couple à gérer. Donc
voilà. Prioriser d'abord, et une fois qu'on a priorisé, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous générez ces temps de parents, comme tu
alors,
dis, ou ces temps de, de mari et femme, ou de copain-copine, ou peu importe?
Alors, vraiment, c'est... dans son emploi du temps, qui, comme tu le disais, peut être vite surchargé, c'est de se dire quelle est la soirée dans la semaine qu'on se consacre à tous les deux. Une soirée dans la semaine, ça peut être deux, trois, mais déjà, on s'en dit une. On sacralise le mercredi soir, le vendredi soir, ça sera pour notre couple. Il n'y a rien qui passera avant. Encore une fois, c'est la priorité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important une fois dans la semaine, un week-end, partir un week-end à deux. Si on peut le faire une fois par mois, super. Après, c'est vrai, quand on est à charge de famille, c'est plus compliqué, mais au moins de se dire un week-end tous les six mois. Et moi, je dis une semaine par an. Là, des fois, je fais hurler.
Ah, oui.
Ah, mais oui, mais comment c'est possible? Mais y a, déjà, il n'y a pas besoin de partir loin. Les enfants, franchement, on arrive toujours, on a toujours des amis d'école, les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, marraines. Enfin, ça demande de l'organisation, je suis d'accord.
Oui, bien sûr.
Vraiment, je suis d'accord. Et puis, ça peut être un système. Nous, je sais qu'on l'avait fait quand on habitait, on était en Bretagne un peu isolé. On s'était mis à trois couples d'amis et en fait, on tournait. Donc, on savait que chacun de nos tours, on pouvait s'accorder un week-end ou une semaine et on mettait les enfants chez les autres.
Ouais,
et voilà, on tournait à trois. Donc, en fait, ça marchait super bien.
Vous avez créé votre petit système.
Mais voilà,
quoi.
Exactement, parce que les grands-parents n'étaient pas tout prêts. Ouais. Et voilà. Et en fait, je pense qu'il y a toujours
des solutions.
Il y a toujours des solutions. Il faut se l'accorder vraiment. C'est un bienfait, un bénéfice qui est pour le couple. Après, on repart. Quoi.
Mais j'imagine que tu me parlais quand même de temps de qualité. Donc, il faut sécuriser ces moments une fois par semaine, une fois par mois, etc.
Ouais.
Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait en fait pendant ces moments-là? Parce que tu me parlais de temps d'écran avant qu'on commence l'interview. Et notamment, le risque, j'imagine, c'est de se dire oui, on passe du temps ensemble. Et puis en fait, on est scotché à son téléphone, on regarde un Netflix ou je ne sais quoi.
Ouais.
C'est pas du vrai temps de qualité.
C'est pas
ensemble.
Du vrai temps de qualité. Alors en fait, je pense que si on se met ces règles dès le début, et plus on va passer de temps de qualité ensemble, plus on aura de choses en fait à se dire et à partager. Les écrans ou en fait ce qui va venir brouiller la communication, ça viendra au fur et à mesure. En fait, ça viendra prendre une place qu'on leur a donnée quelque part. Et si on a alimenté en fait sa vie de couple, le week-end où on partira à deux, en fait, ce sera naturel.
Mmh.
On aura des choses à dire, des choses à se vivre. On sera fait un programme parce qu'on sait les activités qu'on aime en commun. Donc voilà, ce qu'on sera dit, on va dans un, je sais pas, dans un hôtel spa et on aime, on veut rien faire, juste se reposer, se regarder et voilà, faire du hammam. Ou on est plutôt, on veut se faire un week-end kite, un week-end surf. On se dit, allez, voilà, nous on a envie de bouger, on a besoin de se défouler. On se prévoit des activités qui correspondent à nos besoins du moment. En fait, on programme vraiment les choses.
D'accord.
Et voilà, on laisse pas de place en fait j'allais dire aux zones négatives, c'est pas ça, mais aux satellites négatifs qui peuvent venir prendre
ce temps.
On a besoin de se donner en couple.
Génial. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était les disputes. C'est un sujet que j'aime bien aborder aussi dans le podcast. Et il y a toujours un peu des sujets de disputes qui sont récurrents. Une question que j'aime bien poser, c'est comment désamorcer les disputes. Je voulais te demander, est-ce que tu as aussi des grands principes, peut-être des astuces à donner aux auditeurs pour, si ce n'est éviter les disputes, en tout cas les désamorcer, quand en plus on sait qu'il y a des sujets récurrents, par exemple, je ne sais pas... madame fait tout le temps la vaisselle, on a marre que monsieur fasse rien. Bon, c'est un peu la caricature, mais c'est quand même souvent le cas. Ou lui revient tout le temps trop tard, ou je sais pas, elle dépense trop, je sais pas, ce genre de choses. Donc des sujets en fait qui paraissent complètement banals et pas très intéressants, mais qui en réalité sont stigmatisants et posent des vrais problèmes. Est-ce que tu as des petites techniques pour désamorcer tout ça?
Alors, en fait, déjà, tu me demandais est-ce qu'il y a des techniques pour ne pas se disputer. Alors ça, évidemment, non. Et non. Au contraire,
il faut se disputer.
Disputons-nous, hein, intelligemment.
Disputons-nous.
Ouais, disputons-nous, mais intelligemment, hein, ouais. Comme il faut. Voilà. Sans... Mais oui, la dispute, elle fait partie de la vie de couple et il faut qu'elle soit là. Après, évidemment, il ne faut pas que ce soit constant, il ne faut pas que ce soit régulier et il faut que ce soit bien géré. Après, sur les sujets de dispute, ça va être très basique, hein, ce que je vais dire, mais c'est vraiment d'en parler, d'avoir ce...
Bah, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai eu deux sons de cloche. J'ai eu aussi le cas d'école des invités qui me disent en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare à ce moment-là, pas au sens où... Mais juste, il y en a un qui va un peu dégonfler sa fureur et qui va aller marcher dans la rue pendant une demi-heure, aller chez ses parents, je ne sais quoi. Et donc, l'éloignement, au final, fait que ça s'apaise un petit peu, puis la colère descend et ensuite, on peut discuter. Donc, c'est peut-être aussi...
Alors ça, oui, quand je dis en discuter, c'est surtout sur le moment... c'est toujours délicat, on est énervé, on n'a pas envie, donc chacun réagit un peu différemment, mais vaut mieux quand on sent que ça monte et que ça va dériver vers des choses qui vont abîmer le couple, savoir avoir l'intelligence de s'arrêter et de se dire effectivement, voilà, je m'en vais.
Avoir conscience un peu.
Avoir conscience de se dire, là, ça, on n'est plus bon, on s'arrête, ça c'est sûr. Mais à y revenir en fait, alors après, et y revenir, j'allais dire dans un moment, c'est encore, ça revient, mais dans un moment de qualité. Se dire ce sujet entre nous il est récurrent et bah là il faut qu'on en parle, il faut que vraiment on voit ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet, pourquoi ça revient tout le temps, et comment concrètement on peut faire pour que pour s'améliorer là-dessus et pour que ce soit terminé, quoi, que ce soit plus un sujet de conflit qui revienne, mais encore une fois le faire voilà bien comme il faut, dans un moment privilégié, se dire voilà là on est ouvert à la conversation
sur le coup,
non
mais
sur le coup non sur le coup souvent c'est peine perdue et on n'est pas on est trop énervé, on n'est pas en position pour écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire et nous d'exprimer les choses de façon claire, donc non sur le coup non, mais voilà c'est basique, mais et on n'a pas envie de parler forcément de ces disputes, hein. Ça c'est sûr, mais pourtant faut le faire parce que c'est riche d'enseignement en plus, enfin voilà, le couple a tout à y gagner à aborder le sujet, et puis j'irais savoir bien se disputer mais aussi aborder la question du pardon, savoir se demander pardon.
Ça, je pense que sujet.
C'est... Bah ouais, vaste sujet. Et essayer de prendre, on parlait des couples, au départ des jeunes couples, prendre l'habitude, dès le départ, de se demander pardon. En fait, si ça devient quelque chose qu'on fait naturellement dans le couple, on le gardera. Moins on le fera au début, plus ça sera compliqué, et plus le pardon, il viendra vraiment en phase un peu de sauvetage, et il sera plus dur à dire et plus dur à entendre pour l'autre.
L'ego donc, est l'ennemi du couple, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Donc, savoir... Enfin, vraiment, mettre tout l'amour qu'on a pour l'autre et demander ce pardon. Et puis, savoir le donner aussi, parce que c'est pas tout de...
C'est sûr.
Voilà. Alors, ça peut demander un peu de temps, hein. Parfois, voilà, il arrive que l'autre vienne demander pardon, on n'est pas prêt de suite. Et quelque part, tant mieux, ça veut dire que quand il sera donné ce pardon, il sera sincère. Et si je peux donner un petit conseil en plus, alors ça, c'est pour ceux qui ont déjà des enfants, et qui peuvent avoir tendance à se disputer devant leurs enfants. Bon, alors ça, évidemment, c'est pas idéal, mais parfois, voilà, c'est là. Puis il faut qu'ils voient ça aussi, les enfants, hein, que des parents, ça se dispute. C'est comme entre frères et sœurs. Donc, on se dispute. Mais quand ils ont vu ça, c'est aussi qu'ils voient qu'on s'est réconcilié. Donc, évidemment, on ne veut pas forcément se réconcilier devant eux parce que ça fait partie de notre intimité. Mais une fois qu'on l'a fait, en fait, dans notre intimité, leur montrer que, alors je sais pas, ça va être s'embrasser devant eux, même ça va être le dire, hein, voilà, je te demande pardon, on se l'est déjà fait avant, mais se le redire facilement devant eux, qu'ils voient, en fait, qu'ils assistent à ça, et qu'ils soient rassurés par rapport à ça, en disant, ok, nos parents se disputent, mais là, ça y est, ils se sont réconciliés. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est un conseil qu'on nous avait donné, et vraiment qui me tient à cœur, parce que je trouve qu'il est très, très formateur, en plus, pour les enfants.
Hyper intéressant, merci beaucoup. Les dernières questions que je voulais aborder, on en a un petit peu parlé en filigrane, mais pas totalement, c'est la routine. Au bout d'un moment, quand même, nécessairement, on met trop boulot dodo.
Ça s'installe.
Exactement. Et là aussi, on a eu un certain nombre d'auditeurs qui nous disent j'aime mon conjoint, je suis très heureuse ou très heureux avec cette personne, mais néanmoins, je sens qu'on s'installe dans quelque chose d'un petit peu plan-plan.
Ouais.
comment faire en fait, pour, bah, pour arrêter de rouler, pour remettre un petit peu de piment. Est-ce que c'est nécessaire aussi? C'est une vraie question. Ouais. Est-ce que les couples qui durent 60 ans en fait, génèrent, tu vois, un peu d'aventure, de nouveaux projets, ou est-ce qu'en fait, finalement, non, la routine est inévitable et finalement, c'est pas si mal? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, je pense que la routine, à la fois, on en a besoin parce qu'elle a un côté très rassurant. On a une façon de fonctionner en couple, fonctionner en famille. Voilà, on a notre semaine qui est cadrée comme ça et il y a un côté très rassurant là-dedans, mais il y a un vrai danger effectivement dans la routine qui va s'installer et venir en fait étouffer le couple, où on va perdre toute l'énergie et un peu la magie du début. Donc à chaque fois qu'on va se retourner en arrière et regarder les premiers mois, les premières années, on va se dire, oh non, mais qu'est-ce que c'était
formidable
bien.
Et maintenant.
C'est ça. Dès qu'on va regarder un film d'amour, on va se dire, ah non, mais nous, c'est plus du tout comme ça. Oh là 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 là, tu me fais plus vibrer. Et là, c'est, voilà, c'est vraiment danger. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il faut garder pour éviter cette routine. Déjà, pour moi, il y a la séduction. Clairement, garder la séduction dans le couple. Donc, ça va être de se dire, le soir, quand je passe la porte de chez moi, si je sais qu'il est déjà là ou si c'est lui qui rentre après, eh ben, je prends 2 minutes, mais je me recoiffe. Je mets un peu de parfum, un peu de rouge à lèvres, voilà, je me refais une petite beauté pour que le premier regard, il soit déjà pétillant. Et pas, alors, parfois, on me répond à ça, on me dit, ah ben oui, mais il faut s'accepter comme on est, si on ne peut pas être soi-même. Et ce n'est pas une question de ne pas être soi-même. C'est de se dire, après tout, le matin, pour aller au travail, pour aller voir ses collègues ou son boss et tout, on s'est apprêté. Pourquoi on ne le ferait pas le soir pour voir celui ou celle qu'on aime? C'est ce côté séduction.
Faire un effort pour l'autre, quoi.
Mais oui, c'est ça. Se balader le week-end en jogging et en polaire, enfin, je veux dire, non, mais ce n'est pas possible.
Pas de temps en temps, quoi.
Oui, de temps en temps. Voilà. Mais je veux dire, il y a bien un moment, de toute façon, il nous verra en pyjama, il nous verra le matin, pas fraîche, évidemment. Il y aura ce moment. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses... à éviter et à garder sans se mettre la pression, mais à se dire je veux rester séduisant, séduisante pour elle. Enfin voilà, c'est changer parfois sa garde-robe, c'est changer de coiffure, c'est essayer de surprendre, enfin vraiment se dire si je devais le reconquérir ce soir, c'était notre premier rendez-vous, comment je me mettrais, quoi. Voilà, c'est vraiment.
Donc garder cet état d'esprit en fait, de séduction et d'effort en fait.
Mais tellement, vraiment. Mais ça demande effectivement
un peu de travail.
Ouais, un peu de travail. Mais oui, enfin, le couple, si on ne travaille pas, de toute façon, on aura du mal à. Donc vraiment, ça c'est pour la routine, je trouve que c'est important. Et puis le côté toujours aussi essayer de surprendre. Alors ça, encore une fois, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est tellement moteur, c'est tellement. Des petites surprises, ça peut être rien, mais le petit mot qu'on va laisser le matin avant de partir, le dîner au resto qu'on aura organisé en disant le matin un petit texto, tiens, ce soir, je t'emmène, j'ai prévu la babysit, je t'emmène, prépare-toi, rendez-vous à 8h à tel endroit. Mais là, le cœur, tout de suite, il fait boum, quoi.
Ouais, c'est sûr.
C'est pas compliqué.
C'est pas grand-chose, en fait. Ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre une pression démentielle. Des petites choses, ça peut fonctionner.
Une petite chose, c'est donner du temps à son couple et prendre soin. Et vraiment, des petites questions d'organisation, de réfléchir à quelque chose. OK, on fait un dîner tous les deux, mais à la maison, samedi soir. Mais j'allume les bougies, je mets la musique, je sors la bonne bouteille. Enfin, c'est rien du tout. Mais c'est vraiment, c'est pas dans la routine pour le coup. On sort du quotidien, on s'est fait plaisir un vrai moment. Et puis voilà. Et peut-être que la routine du dimanche matin, le marché, la balade, elle reviendra. Mais on aura vécu un truc un peu exceptionnel le soir qui fera que la routine, super, elle posera pas de problème en fait.
Donc il est possible d'avoir des papillons dans le ventre même après 30 ans de mariage.
Mais non, mais tellement, évidemment. Il y a une vraie volonté en fait. Je pense il faut en avoir l'envie, la volonté.
C'est ça, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Les couples qui marchent, en fait, ça en donne les moyens.
Alors là, j'en suis persuadée. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est la volonté d'aimer et de se dire, on se donne les moyens de s'aimer toute la vie. Mais ça, ouais, clairement.
Écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils. Pour terminer, si on veut te retrouver, si on veut retrouver tout ce que tu as construit, dis-nous où est-ce qu'on peut te chercher.
Alors, il y a les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram à Save Your Love Date, Facebook de même. Et puis, on a un site web.
On peut commander, c'est ça, le livre, si on veut se faire aider un petit peu.
Commander des carnets, les découvrir, voir un peu le concept et puis découvrir l'équipe qu'il y a derrière. Et voilà.
Génial. Merci beaucoup pour tout ton temps, pour tous ces conseils.
C'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver le contact de nos invités sur le site de Gemio, www.gemio.com, rubrique podcast, ou découvrir même l'envers du décor du podcast en vidéo sur Instagram via notre compte qui est tout simplement @gemio. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, peut-être aussi nous proposer votre histoire d'amour, alors contactez-nous en message direct via Instagram, toujours au pseudonyme Gemio. On attend vos nombreuses candidatures. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux, une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos amoureux, vos proches. Nos invités méritent vraiment qu'on diffuse leurs témoignages autour de nous. Surtout, un grand, grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.